1,
9h, 11h,
Wendy Bouchard. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, chers amis. Merci de nous rejoindre pour faire le tour de la question en compagnie de vos témoignages au standard et de Julie, bien évidemment. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Avec d'abord au cœur de l'actualité, toutes ces retapes, ces messages que vous avez peut-être reçus par dizaines depuis avant-hier sur vos mails, sur vos téléphones portables pour aller faire les soldes dans vos enseignes préférées. Alors on va s'intéresser un peu plus aux vêtements aujourd'hui avec des dizaines de promotions proposées, des ventes privées au Black Friday jusqu'aux soldes d'hiver. Comment on s'y retrouve, nous, pauvres consommateurs dans tout cela? Comment le secteur du textile vit-il ses soldes d'hiver aujourd'hui? Impact économique et écologique? On fait le tour de la question avec nos invités et n'hésitez pas à réagir, à questionner dans quelques secondes. Et puis à 10h, on va partir dans l'espace, alors qu'un petit robot chinois explore en ce moment l'une des faces de la Lune, la face cachée. C'est une première mondiale. La Chine s'inscrit dans la conquête spatiale en montrant qu'elle peut être aussi redoutable dans ce domaine. Vos questions, vos témoignages, là encore, on vous attend. Le standard est ouvert, Julie.
Le 39-21 et avec le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec nos invités, Naila Ajaltouni, économiste spécialiste du développement des pays du Sud et coordonnatrice d'un collectif qui s'appelle le collectif Éthique sur l'étiquette. Bonjour Naila.
Bonjour.
Et François Carlier, délégué général de l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers, qui connaît bien cet univers des soldes, la consommation des vêtements notamment. Bonjour François Carlier.
Bonjour.
Je voudrais qu'on commence avec vous, Julie. Et la réponse à la question Facebook que nous avons posée depuis quelques heures, dites-nous ce qu'il en est. La question était, avez-vous l'intention de profiter des soldes cet hiver?
Non, à 67%. C'est surprenant, hein, mais il faut voir que tous les commentaires se ressemblent. Et vous allez voir pourquoi. Non, je n'ai pas assez de pouvoir d'achat. Je préfère garder mon argent pour manger, nous dit Joël. Avec quel argent? Je suis retraitée, je ne vous fais pas de dessin. Je n'ai pas eu de prime de Noël. C'est signé Nani. Franchement, j'aimerais bien faire les soldes, mais ma facture EDF a doublé. Et pourtant, je n'ai pas changé ma façon de vivre. Alors les soldes, ce n'est pas pour moi, écrit Monique. Mais il y a quand même quelqu'un qui va les faire, c'est Hervé. Personnellement, je compte bien en profiter et essayer par la même occasion de me faire plaisir.
Voilà, près de 5000 votes pour cette question qu'on a lancée il y a quelques heures, qui témoigne du comportement qu'on pourrait observer pour ces soldes d'hiver. François Carlier, édition 2019.
Oui, le cachant, ça sera un mauvais chiffre, hein, parce que il me semble que le Crédoc, hein, qui est un institut d'études bien connu, pose cette même question depuis les années 90. Dans les années 90, il y avait à peu près 70% des Français qui disaient qu'ils voulaient participer aux soldes. C'est tombé à 60% dans les années 2000, et maintenant, on se balade entre 50 et 60%, mais ça avait tendance quand même à ne plus baisser. La baisse s'est arrêtée. Là, c'est vrai qu'on a des chiffres qui, effectivement, sont paraissent plus bas.
Et pourtant, on est sorti de 9 semaines de contestations sociales qui ont été terribles pour les commerçants. Alors, certains pensaient peut-être pouvoir refaire un petit peu leur fin d'année avec ces soldes, dont on parlait d'ailleurs de les avancer à un moment donné. Finalement, ils vont quand même durer 6 semaines jusqu'à la fin du mois de février. C'est un rituel important, hein. C'est une étape assez charnière quand même, ces soldes d'hiver encore.
Oui, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'importance qu'il y avait il y a 20 ans. Tout simplement parce qu'il s'est aussi développé d'autres démarches. On en reparlera, les promotions, les Black Friday, etc., etc. Donc maintenant, il y a les ventes privées aussi. Donc avec l'outil numérique, il y a d'autres moments où les gens peuvent acheter pour moins cher.
Oui.
Mais c'est vrai qu'elles gardent une certaine importance. Notamment, on sait que par exemple, pour les achats des familles avec enfants, quasiment tous les ménages avec enfants participent au solde parce que c'est un moyen d'acheter pour toute la famille pour pas cher. Donc ça reste quand même un rendez-vous qui est tout à fait important.
Et sur lequel on se refait un certain nombre d'enseignes. Naila Ajaltouni, je ne sais pas si comme moi, vous avez reçu des dizaines de messages d'un certain nombre d'enseignes politiques assez agressives parce qu'on vient nous chercher sur notre téléphone portable et on nous martèle vraiment moins 10, moins 20, moins 40, ça pourra aller jusqu'à moins 70% à la fin du mois de février. Là, on est entré dans une ère aussi d'agressivité publicitaire.
Oui, c'est vrai que les habitudes de consommation ont évolué, les marchés aussi sont segmentés, donc on a des habitudes tout à fait différentes, d'autres moyens de consommer, mais on est aussi happé par cette publicité agressive qui doit aussi, à mon sens, être régulée. Les messages que l'on reçoit sur son téléphone, on n'a pas toujours conscience qu'on a consenti déjà à les recevoir, et c'est un moyen en effet de nous appâter à différents moments, notamment parce que précisément ces périodes deviennent un peu moins symboliques qu'elles l'ont été il y a quelques années.
On rappelle quand même que les soldes, c'est censé être du gagnant-gagnant pour les consommateurs comme pour les vendeurs. L'idée, c'est d'écouler les stocks, François Carlier.
Oui, c'était ça l'idée de base. Hein. Ce qui restait en stock était soldé, donc à des prix cassés. Après, c'est vrai qu'on sait très bien que c'est aller au-delà de cette idée de base et qu'on a parfois un syndrome qui est que, tout simplement, on annonce moins 50%, mais sur la base d'un prix facial qui a été augmenté. Mmh. Et donc, l'offre n'est pas aussi intéressante que ça. C'est pour ça que j'incite les gens, en fait, à acheter en solde dans des enseignes ou des types de produits qu'ils connaissent pour qu'ils soient capables de jauger si vraiment la remise est intéressante.
On a des réactions sur le sujet.
Ah
sur
oui,
Facebook,
Patricia
hein.
nous dit, comme d'habitude, les fausses soldes sont partout. Des ouais. articles qui n'étaient pas dans les rayons il y a 15 jours et que l'on fabrique spécialement pour les soldes. Les enseignes nous prennent vraiment pour des imbéciles.
Fantasme ou réalité ?
Il y a une part de réalité. Bon, les réimpressions des fraudes font les contrôles, mais ils ne peuvent pas tout contrôler. Donc, il y a une part de réalité.
Oui.
C'est pour ça qu'il vaut mieux aller acheter sur les choses qu'on connaît, vraiment, où on est capable de jauger hein, sur le discount.
Mais on fabrique des articles pour les soldes.
Oui, oui. C'est ce qui se dit. Et apparemment, oui. je crois que c'est vrai.
Oui, ça arrive. En tout cas, quand les commerçants n'ont pas... Parlons des vêtements, parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Si les commerçants n'ont pas écoulé tous les stocks, qu'advient-il de ces vêtements, Naïla ?
C'est une question sur laquelle il existe encore une opacité. Alors, une partie est recyclée, malheureusement une infime partie,
oui.
donc peut aller alimenter des associations qui ont pour métier, pour mission de recycler ces vêtements, de leur donner une seconde vie.
Notamment l'association Le Relais.
Le Relais, mmh. Emmaüs, oui. Etc. Il y a, le gouvernement a annoncé l'année dernière le projet d'une loi qui contraindrait ces marques d'habillement à recycler l'ensemble oui. de leur production.
Qui donc, aujourd'hui, ne sont pas contraintes de le faire.
Absolument. Mmh. Une grande partie, malheureusement, va être incinérée.
Détruite.
Va être détruite. On n'a pas cette ouais. seconde vie. Et une partie, c'est un effet que l'on connaît un peu moins, va finir sur les marchés de seconde main de pays pauvres, notamment en Afrique de l'Ouest, mmh. qui vont venir là-bas concurrencer aussi un marché local, un artisanat, un savoir-faire. Vous allez retrouver des vêtements H&M du Kenya à la Côte d'Ivoire. Ce sont bien évidemment des pays qui n'ont pas besoin d'être le dépotoir aussi de notre surconsommation et de cette surproduction.
Étonnant circuit que ces vêtements qu'on consomme, qu'on gaspille et qu'on peut détruire comme cela, incinérer lorsqu'ils ne sont pas vendus. On va y venir sur cette industrie du textile dans quelques instants, mais on va revenir aussi sur l'impact de toutes ces promotions, des ventes privées, des soldes d'hiver et d'été, des Crazy Days, des Black Friday. On a vraiment du mal à s'y retrouver dans cette politique, encore une fois, agressive sur le sujet. Les clients désorientés et les marques dans tout ça. Nos invités sont là pour vous éclairer. N'hésitez pas à réagir. On vous écoute avec Julie.
Au 3921.
Une toute nouvelle donnée, en voici la cause.
Wendy Bouchard.
Et oui, vous sentez-vous vous aussi victime de la mode alors que nous parlons des soldes d'hiver avec des clients désorientés? On ne sait plus vraiment quelles affaires faire alors qu'on nous propose des affaires sans cesse au final. Nous sommes avec nos invités pour nous éclairer sur le sujet et pour parler au-delà de l'industrie du textile, de ce circuit, de ce rapport que nous avons aux vêtements, chers amis. Et vous pouvez témoigner. François Carlier est délégué général de CLCV, l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers. Naïla Ajaltouni était économiste et spécialiste du développement et des pays du Sud. Elle va nous faire état aussi de ses compétences comme coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette pour une mode plus éthique. Claude de Marseille nous écrit sur Facebook « Quand je vois tous ces jeunes qui s'achètent des vêtements tous les week-ends, je me dis qu'ils n'ont plus le sens ni de la quantité, ni de la qualité, François Carrier, ni du juste prix, peut-être, du vêtement. »
Oui, en tout cas du juste prix, parce que c'est vrai que les périodes de soldes sont normées hein, depuis longtemps, on le sait en hiver, en été, mais par contre, les périodes de promotion ont été quand même assez libéralisées hein, au fil des décennies, donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de moments où on dit que c'est pas cher. Et donc c'est vrai qu'on en perd cette notion du c'est quoi le prix, d'autant plus qu'il y a des remises particulières maintenant avec les ventes privées, avec tout l'outil numérique en fait qui permet de segmenter, comme ça a été dit, les offres. Donc c'est vrai qu'on perd cette notion du juste prix. C'est un problème qui nous fait réfléchir sur est-ce qu'il faudrait pas quand même un peu revenir sur des périodes plus courtes de promotion. Et puis aussi dire aux gens que le principe de la promotion de la solde, c'est aussi de faire acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. C'est de susciter un besoin nouveau. Alors bon, parfois c'est pour se faire plaisir et tant mieux, mais parfois on en vient effectivement à acheter en promo ou en solde des choses qui n'étaient peut-être pas très utiles.
Oui, alors quand on additionne justement toutes les promotions, tous les soldes, y compris sur Internet, parce que les ventes sur Internet, les promos sur Internet, elles sont très nombreuses. Quand on fait le calcul, et Axel de Tarlet pour Europe 1 l'a fait pour nous, 47% des vêtements sont vendus en solde ou en promotion au final, presque la moitié. Voilà où on en arrive aujourd'hui dans ce système où on veut brader, donner envie. Ça veut dire que peut-être le prix fixé était trop important au départ.
Oui, c'est aussi le fait de l'arrivée sur le marché d'un acteur économique qui n'existait pas il y a 20 ans, qui sont les acteurs de la fast fashion. Cette mode avec un rythme des collections accéléré. On a désormais dans les grandes enseignes type Zara, H&M, Primark, oui. Des collections tous les 15 à 3 semaines, d'une production à très bas prix, de piètre qualité, qui a aussi introduit une vision complètement distordue du prix et de ce qui constitue un vêtement. Or, un vêtement, c'est par essence le produit d'une main-d'œuvre quasi exclusivement. On n'a rien trouvé de mieux encore aujourd'hui qu'une femme derrière une machine à coudre pour fabriquer un vêtement. Donc, on n'a pas eu l'introduction d'un progrès technique qui justifierait que les prix aient baissé, par exemple. Donc, c'est assez étonnant, finalement, qu'on ait si peu connaissance de ce qu'il y a derrière le prix, le coût d'un vêtement, c'est-à-dire le coût d'une main-d'œuvre, de transport, de matières premières, etc. À la fois, on a renié sur les matières premières qui sont de moins en moins de bonne qualité et sur le coût du travail avec cette mode à bas coût, au rythme accéléré et produite en très grande quantité, faisant pression sur des fournisseurs qui sont amenés à produire un coût toujours plus bas pour nous offrir l'illusion d'un prix toujours plus bas, mais avec un coût social et environnemental extrêmement élevé au profit de ces grands groupes, finalement.
Et ce n'est pas forcément un bon gage ou un bon placement que d'acheter, par exemple, un jean à 10 euros dans les enseignes que vous avez citées. D'abord, un, parce que ce jean-là est créé, en effet, et confectionné dans des conditions très compliquées. Deux, parce qu'ensuite, ce jean-là, si vous voulez vous en défaire, qu'on le met dans un relais, dans une borne relais, par exemple, est très difficilement recyclable. Alors, peut-être pas le jean, mais en tout cas, ces vêtements à bas coût, ces t-shirts à 4 ou 5 euros.
Oui, c'est effectivement une réalité. Pourquoi est-ce que l'industrie du textile est la deuxième la plus polluante au monde après le pétrole? Oui. C'est assez impressionnant en effet, notamment parce qu'aujourd'hui la matière principale utilisée pour fabriquer un vêtement, c'est encore le coton, qui est très gourmand en intrants, en pesticides et en eau. On a des quantités considérables.
Il y a le synthétique aussi, surtout, non?
Voilà, qu'il y a aussi la production de produits synthétiques comme le viscose notamment, qui fait appel aussi à des matières polluantes. Parce que dans la teinture et dans l'ennoblissement des fibres, il y a aussi un tas d'éléments polluants, que par la suite les sols sont pollués à travers les eaux elles-mêmes qui ne sont pas bien traitées, etc. Et notamment parce que le chemin vers cette mode jetable de très piètre qualité a dégradé également la fibre qui elle-même est difficilement réutilisable et recyclable. Donc non seulement on ne trie pas, je crois qu'en France on trie uniquement un tiers de nos vêtements malgré le niveau de conscience citoyenne qui s'est énormément développé depuis quelques années, mais on ne trie et donc on ne donne qu'un tiers des vêtements. Mais parmi ces vêtements, il y a une quantité qui ne sera pas réexploitable en raison de la piètre qualité de la fibre.
Donc quand on achète si peu cher, on se rend coupable de ce système aussi, d'une certaine manière.
En tout cas, on ne peut pas se dédouaner d'une part de dire j'achète beaucoup de vêtements, mais ça n'est pas grave car je vais les donner, les recycler, parce qu'ils n'auront pas nécessairement une seconde vie.
La logique ne tient pas.
Ouais. Et par ailleurs, si on alimente, encore une fois, ça paraît peut-être pour les générations les plus jeunes vieux, mais il y a 20 ans, c'est assez récent finalement, cette fast fashion. Fashion n'existait pas. On s'habillait autrement, avec une connaissance de la matière, de la qualité des vêtements qui durent. Aujourd'hui, on a introduit par la fast fashion de l'obsolescence programmée dans le secteur
textile.
Du textile et l'habillement.
Alors qu'en effet, on n'a pas les moyens d'acheter pas cher. Il faut se dire ça aussi. Il vaut mieux acheter un vêtement qui dure. Un seul, mais qui dure. Plutôt que des tas de petites
absolument, parce que le coût à moyen terme et pas à long terme est beaucoup plus élevé que le gain à court terme.
Alors vous nous direz si cette émission vous fait changer d'optique justement sur le sujet. Si vous avez, vous, un rapport particulier aux vêtements, n'hésitez pas à témoigner. À quel rythme achetez-vous? Acheteur compulsif ou raisonnable? Dites-nous comment vous avez changé votre manière de faire aussi. Nous réagissons aux soldes d'hiver et Christian voudra témoigner au 39-21 dans un petit instant. J'ai aussi des auditeurs qui sont présents sur le hashtag Europe 1, hashtag le tour de la question. Je vous lis tout cela avec Julie, juste après la pause.
Le tour de la question sur les soldes ce matin avec Wendy Bouchard et ses invités.
Avez-vous l'intention d'en profiter? Bien, vous nous avez répondu non à 67%. Oui. François Carlier, délégué général de CLCV, l'association de défense des consommateurs, a commencé à nous expliquer pourquoi, justement, noyé sur les promotions, on a du mal à s'y retrouver. Et puis, il y a cette question du pouvoir d'achat, évidemment, au centre des préoccupations. Naïla Jaltouni, économiste, coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette, nous parlait de cette industrie que nous alimentons aussi, l'industrie du textile la plus polluante derrière celle du pétrole. Et alors, pour bien faire les soldes, vous allez nous donner quand même même quelques petits gestes et indications utiles. François Carlier, on a une réaction sur le hashtag Europe 1 intéressante, Julie, à cet
oui,
égard.
Pour éviter les fraudes sur les prix pendant les soldes, nous avons créé l'application Étiquette E-T-E-E-K-E-T.
D'accord, Étiquette. Oui.
Une application collaborative qui permet de scanner les articles et de se rendre compte de l'évolution de leur prix au cours du temps.
Ah, c'est pas mal, ça vous connaissiez, Naïla ?
Non, je ne connaissais pas. Je connaissais une autre Étiquette qui est une marketplace, comme on dit, qui vend, qui sélectionne des marques de mode responsables.
Oui.
Mais c'est vrai qu'on voit fleurir des initiatives, notamment de jeunes consommateurs, citoyens qui ont envie de donner davantage de transparence à cette industrie.
On va voir comment elle évolue, cette industrie, alors que les soldes d'hiver représentent en moyenne 20% du chiffre d'affaires annuel des commerçants sur une période de 6 semaines, qui est intense et importante, avec des rabais qui pourront aller jusqu'à moins 70%. Ça, c'est la loi qui l'autorise, François Carlier.
Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc des rabais qui sont effectivement importants, qui généralement croient au cours des soldes.
C'est-à-dire que les commerçants vendent à perte ?
Alors ça veut dire que soit bah, ils vendent à perte, mais à partir d'un stock d'invendu. Donc ils préfèrent vendre quand même un peu avec de la valeur plutôt que de perdre complètement le stock. Ça, c'est, je dirais, l'idée originelle des soldes. Et après, en fait, effectivement, comme le prix du produit est pas quelque chose, est un peu une boîte noire,
oui.
En réalité, il y a beaucoup de soldes qui ne sont pas à perte.
Oui. Christian est avec nous. Il nous appelle de Paris au Standard Europe 1 3921. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
C'est un secteur que vous connaissez bien, le textile et l'habillement.
Oui, je connais parce que j'étais directeur financier d'un groupe qui a plusieurs enseignes de textiles pour femmes,
oui.
Dont je tairai le nom. Et je voulais réagir par rapport à vos propos pour donner des compléments d'information.
Bien sûr.
Tout d'abord, il faut savoir que lorsque l'on vend dans un magasin à moins 50, oui. On gagne encore de l'argent.
Oui.
Le taux de marge est supérieur à cela.
D'accord.
D'autre part, d'une façon générale, je ne peux pas dire que c'est tout le temps le cas, mais d'une façon générale, quand on vend au début des soldes des produits à moins 70, par exemple, en ce moment, en janvier 2019,
oui.
Ce ne sont pas des produits de la collection de l'hiver 2018. Ce sont des produits de la collection de l'hiver 2017.
Ah, ça veut dire que les stocks ont
c'est
été conservés.
Très, très. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les stocks que l'on va vendre à des soldeurs, ou les stocks qui vont partir en Afrique, comme vous le disiez,
oui.
Ou les stocks que l'on va donner à des œuvres, et ça, on le fait parce qu'on a des déductions fiscales, des choses qui nous intéressent sur le plan fiscal.
Oui.
Ces stocks-là que l'on va donner, on va les donner en février-mars prochain,
oui.
Et ce seront les stocks de l'année 2017.
2017, d'accord, très bien.
Voilà, les invendus de 2018, on commence à les solder à moins 30, moins 40,
oui.
Donc on gagne de l'argent. Et au cours des dernières semaines de soldes, c'est-à-dire deuxième et troisième des marques, là on va les mettre à moins 50, moins 70. S'ils partent toujours pas, on les ramènera dans les entrepôts des chaînes de magasins. Je parle bien pour les chaînes, hein,
oui.
Pas pour des indépendants.
Oui.
On va les ramener dans nos entrepôts. On les ressortira l'année prochaine à moins 70 au début des soldes.
Voilà, avant qu'ils partent, voilà, pour les pays
exactement.
En développement ou dans les usines pour recyclage ou pour être incinérés tout simplement. Bah, écoutez, très bon complément d'information, Christian, en qualité de directeur financier de ce groupe avec des marques de vêtements sous votre tutelle, parce qu'on est vraiment voilà, dans la logique aussi du commerçant face à ses possibilités promotionnelles, François Carlier. Hein. C'est très clair.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que maintenant, le problème qu'ont les enseignes qui font les soldes, c'est que vient se greffer des concurrences assez directes, comme notamment les ventes privées, qui ont souvent lieu juste avant les soldes. Là, par exemple, entre le 2 janvier et le 8 ou 9 janvier, il y a une multiplication des ventes privées, justement, pour arriver avant les soldes, pour préempter les achats.
Oui, et le problème des soldes, quand même, si on revient à votre éthique, Naïla Jaltouni, c'est qu'elle favorise, il favorise ces soldes-là, le rapport tronqué qu'on a aux produits et à la consommation aussi de cette mode.
Absolument, et donc vraiment au premier lieu au prix. On a doublé notre consommation de vêtements en 15 ans et les prix ont baissé de 20 à 30%. Or, quand il y a un phénomène naturel qui s'appelle l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix partout dans le monde, il n'y a pas finalement de justification économique au fait que l'on achète dans ces conditions-là des vêtements aussi peu chers, si ce n'est un coût social et environnemental. Donc, il faut bien comprendre qu'un t-shirt à 4, 5, 7 euros, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. C'est un coût que l'on remet, qui est externalisé, mais qui va se faire ressentir, parce que lorsqu'on peut avoir des vêtements, enfin aussi, une production aussi low cost. C'est une société entièrement low cost à laquelle on adhère, que l'on accepte de développer avec encore une fois un coût très clair sur y compris nos conditions de travail, la protection sociale et notre environnement tout simplement.
Pour faire face à ces ravages économiques et écologiques, on va vous donner un certain nombre de pistes vers lesquels s'engagent les acteurs aussi, peut-être des entreprises de plus en plus enclines. C'est une étude toute récente à acheter des produits made in France. Voilà, aussi pour le textile, on en parle avec vous, chers amis François Carlier, Naïla Ajaltoni. Je remercie Christian pour ses précisions. N'hésitez pas à faire comme lui et à nous donner aussi vraiment la... en qualité de citoyen, de consommateur, votre rapport aux vêtements. C'est important de comprendre comment vous aussi, vous consommez, entre guillemets, cette mode. À tout de suite avec Julie.
En marge des soldes, nous parlons de l'industrie du textile et ses réalités et de la surconsommation dans le secteur de l'habillement.
Oui, pourquoi consomme-t-on autant de vêtements aujourd'hui? Est-ce votre cas? N'hésitez pas à témoigner parce que tout cela va vous nourrir et nous nourrir avec François Carlier, délégué général de CLCV, qui est avec nous pour étudier vos habitudes justement de consommation, de comportement en tant qu'usager et consommateur. Naïla Ajaltoni, économiste, spécialiste du développement des pays du Sud et coordinatrice du collectif Éthique sur Étiquette. La fast fashion créée il y a une vingtaine d'années maintenant qui alimente une surconsommation de cette mode. On achète environ 60% de plus de vêtements qu'il y a 15 ans et ils durent deux fois moins longtemps. Ce sont les chiffres de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et on est là, voilà, dans un système avec un impact non négligeable sur l'environnement, impact consommation réel. La plupart des vêtements que nous achetons dans des marques low cost viennent de quel pays, Naïla?
Alors, ils viennent en grande majorité des pays d'Asie du Sud-Est, hein, qui ont fait l'objet des dernières délocalisations après les vagues à l'intérieur de l'Union européenne, enfin donc vers les pays d'Europe de l'Est, puis du Maghreb, puis de la Chine, et par la suite de pays comme le Bangladesh, qui est le deuxième pays exportateur de textiles habillement après la Chine, puis le Cambodge, le Vietnam, une partie au Sri Lanka, au Pakistan également. La Turquie est aussi un important producteur, notamment pour le jean, et encore des zones de production un peu de proximité, c'est-à-dire le Maghreb, notamment la Tunisie et le Maroc.
Oui, quel que soit notre discours sur l'éthique, notre rapport à ces pays-là n'a pas changé. On les paye toujours aussi mal ou au contraire, notre comportement, les comportements des grandes entreprises ont-elles évolué?
Non, malheureusement, s'il y a un élément qui a évolué depuis quelques années, notamment l'effondrement dramatique de cet immeuble, le Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui avait vraiment bouleversé les citoyens dans le monde entier et quand même abouti à...
Nous rappeler le nombre de morts.
Oui, 1138 femmes travailleuses mortes sous les décombres, plus de 2000 blessés. Donc, ce sont des personnes qui, par ailleurs, n'ont plus les moyens d'exercer une autre activité économique. Donc, il faut bien qu'elles puissent aussi survivre.
Il faut confectionner des vêtements pour les enseignes qui sont dans nos pays occidentaux.
Tout à fait, absolument. Pays occidentaux, grandes enseignes, donc sur différents segments de marché en plus. Et ce nombre de morts absolument épouvantable, notamment, surtout que c'était un drame que nous avions... anticiper, malheureusement, documenté déjà depuis plusieurs années, des effondrements, des incendies d'usines au Bangladesh, parce que c'est une industrie qui a cru de manière exponentielle, qui est devenue le nouvel Eldorado des multinationales de l'habillement, sans qu'il y ait un investissement dans au moins un bâti qui permette les vibrations de machines, ce qui n'était pas le cas du Rana Plaza. S'il y a une chose qui a évolué depuis...
Or, c'était dans cet immeuble qu'on confectionnait, par exemple, des t-shirts à 4 euros.
Oui, donc on a retrouvé des vêtements de la marque Primark, de Mango, de Benetton. Donc, pas seulement des marques low cost, malheureusement, mais on voit bien cette dérive dans la mondialisation dans laquelle il y a une recherche de production à bas coût, quel qu'en soit le prix, pour tout simplement maximiser les profits. Et je vous disais, s'il y a une chose qui a évolué et on voit qu'elle se renforce depuis deux ans, c'est la prise de conscience citoyenne. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a jamais été autant questionné sur le coût caché de ces vêtements à si bas prix. Il y a à nouveau un regain d'intérêt à la question de la matière, de la coupe, du style. Qu'est-ce qu'un vêtement? Quelle est son utilité? À quoi il sert? La chose qui stagne, je dirais, ou en tout cas pour l'instant qui ne s'est pas traduite par un changement du modèle économique, c'est bien l'attitude de ces grands groupes multinationaux. Il y a eu des politiques, je dirais, qui sont plutôt des politiques de défense pour redorer une image qui avait été sévèrement écornée, donc des audits sociaux qui ont été multipliés, des mesures plutôt, je dirais, caritatives. Excusez-moi, mais à aucun moment, le rapport qui est sorti cet été montre que la pression sur les prix au Bangladesh, par exemple, n'a fait que s'accentuer. Et au fil des années, la part de la valeur dans le coût total d'un vêtement qui revient au travail n'a fait que diminuer. Donc le modèle économique ne change pas, même si on se rend compte, et vous avez entendu notamment plusieurs scandales d'invendus brûlés, c'est-à-dire qu'il y a une telle surproduction que les marques en sont amenées à tout simplement brûler une partie de leurs invendus. Donc ce sont des vêtements neufs. Tous ces éléments commencent à susciter une prise de conscience dont on souhaite évidemment que les marques se saisissent pour faire changer leur modèle économique, mais dont surtout on se rend compte que si la puissance publique, le régulateur ne s'en saisit pas en imposant à ces entreprises de se comporter de manière responsable, finalement on n'aura pas d'évolution du modèle.
Voilà, c'est une double évolution, puissance publique avec un discours d'un côté et puis prise de conscience citoyenne. Vous n'avez qu'à faire ce qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire ranger vos placards, tout mettre sur le lit, regarder la montagne de vêtements qui s'empilent, et on est quasiment tous dans le même cas, pour comprendre que nous avons des vêtements en trop, des vêtements que nous n'avons jamais mis. Près de 2/3 des Français estiment avoir des vêtements non utilisés chez eux. C'est à peu près 150 € qui, en moyenne, dorment dans nos armoires. Alors, heureusement, il y a des sites spécialisés pour revendre les vêtements qui ne vous plaisent plus, le vestiaire collectif. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Mais on va parler justement de cette surconsommation qui nous brûle un peu. Et donc, notre rapport aux soldes est particulier. C'est peut-être pour ça que vous êtes à 67% à nous dire que vous n'allez pas faire les soldes cette année. Prise de conscience en marche. En tout cas, on nous éclaire sur le sujet. Merci à vous. Julie, on peut susciter encore quelques appels ?
Mais oui, au standard, on vous attend le 39-21. Europe 1. Mais pourquoi consomme-t-on autant de vêtements aujourd'hui ?
On parle des soldes d'hiver, en effet, qui ont débuté hier. Et pour 6 semaines, jusqu'à la fin du mois de février, vous pourrez trouver des démarques jusqu'à 70%. Et Christian, un de nos auditeurs qui travaillait dans cette industrie, nous racontait justement les différentes étapes. À moins 70%, vous trouverez des vêtements qui sont des stocks de 2017. Voilà, ça veut dire en effet, Naila Jaltouni, qui est l'une de nos invitées aujourd'hui, que les commerçants ont quand même, en tout cas les marques, les moyens de stocker ces vêtements encore, qui s'ils ne sont pas vendus au bout de 2 ans, ou iront dans les circuits de recyclage, ou seront tout simplement, hélas, incinérés alors qu'ils ont été produits dans des conditions que vous savez pour un certain nombre. François Carlier, vous êtes délégué général de CLCV, l'Association nationale de défense des consommateurs et des usagers. Alors, on parle des vêtements, mais je voudrais qu'on fasse un tout petit éclairage pour ceux qui nous rejoignent, parce que les soldes, c'est pas que ça, c'est tous les secteurs. Est-ce qu'il y a un secteur quand même qui s'en sort bien dans ces soldes d'hiver ? Mieux que les autres.
En tout cas, bon, tout ce qui est produit high-tech, gris, les télévisions, les smartphones, tout ce type d'appareils, effectivement, profitent généralement assez bien des soldes.
Il y a des promos intéressantes là sur le compte ?
Il peut y avoir effectivement des promos intéressantes. Alors là encore, elles ont lieu un peu toute l'année, mais ça s'applique notamment pour les soldes. Et puis après, il peut y avoir quelques secteurs comme l'ameublement, par exemple, qui peut effectivement tirer sur l'épingle du jeu.
D'accord. Alors, pour revenir sur les vêtements, ce qui nous rassemble plus, c'est notre rapport aux vêtements. J'ai cette dépêche AFP sur les yeux qui est sortie il y a quelques heures maintenant, sur lesquelles de plus en plus d'entreprises françaises se montreraient sensibles à l'achat de produits made in France. C'est une étude menée par un cabinet qui analyse les relations entre clients et fournisseurs. Le made in France ou l'achat local est considéré par une majorité d'acheteurs aujourd'hui, 53%, comme un critère d'attribution du business. Alors ça veut dire qu'on commence bien l'année 2019 si on va en ce sens, François Carlier ?
Alors c'est un sujet récurrent, la question du made in France. Nous, ce qu'on considère, c'est que il y a une envie de relocalisation, alors qui peut être pour diverses raisons, pour des raisons environnementales, pour des raisons de faire vivre de l'emploi dans sa région. Donc il faut satisfaire cette demande et donc développer effectivement le principe du made in France. Mmh. Après, aussi avoir conscience que c'est pas parce que c'est made in France que ça a forcément les vertus qu'on attend. Que ça soit en termes social, éthique, environnemental. Donc c'est pour ça qu'au-delà du Made in France, on plaide aussi quand même pour qu'il y ait le développement de signes un peu officiels sur certaines qualités. En fait, en France, qui est un peu le pays du label, hein, qui a développé le label, on a réussi les labels de qualité dans l'agroalimentaire à travers le label rouge, qui est globalement un succès. On a réussi des labels environnementaux avec le bio, mmh. Bon, qui est quand même globalement un succès. Dans le domaine de l'éthique, notamment pour faire référence à ce qui a été dit précédemment, ou des questions des droits sociaux. La difficulté qu'on a, c'est que pour l'instant, on n'a pas de label officiel très clair sur lequel les consommateurs pourraient se repérer. Et une des raisons, il nous semble, parce que nous, CLCV, on a été associé à un très grand nombre de groupes de travail sur la question, c'est qu'on a du mal à que les gens se mettent d'accord sur des critères très identifiés d'un point de vue éthique et droits sociaux. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver, on va y arriver, mais c'est ça qui manque un peu pour pouvoir faire en ce moment de l'achat éthique.
C'est bien que vous parliez de ça, parce que Sandra réagit, elle nous écrit de Nanterre. Je suis créatrice de vêtements pour enfants et aussi d'accessoires d'artisanat français. Je sens que les consommateurs demandent de la qualité, du Made in France, c'est satisfaisant. J'ai créé un bavoir à 13 Made in Nanterre pour une création en France. À 13 euros, je sais pas où je vais dire. J'ai créé un bavoir à 13 euros Made in France pour une création en France. C'est un petit prix. On lui demandera sa marque dans un instant à Sandra. Nous avons Carole en ligne avec nous au 3921. Bonjour Carole.
Oui, bonjour Wendy.
Bonjour, vous êtes maman, chère Carole. Vous appelez d'où ?
Oui, de Rennes.
De Rennes, très bien. Alors, oui. Vous avez un rapport aussi particulier en tant que maman aux vêtements, évidemment, et votre témoignage est éclairant. On vous écoute.
Oui, alors ce que je voulais dire, en fait, j'ai deux enfants et je suis sensibilisée aux conditions de production des vêtements, aux colorants aussi qui peuvent être utilisés dans les vêtements. Mmh. Et ce que je voulais dire, c'est que pour mon premier enfant, j'ai acheté des vêtements, on va dire, de marque haut de gamme, avec des t-shirts, par exemple, qui proposaient des t-shirts à 20 euros. J'ai pu donner, du coup, ces vêtements à mon deuxième enfant pour acheter moins. Par contre, quand on a des enfants, les vêtements, ils les mettent un an maximum. Et du coup, pour le deuxième, pour compléter, j'ai cédé et je suis allée dans des enseignes où ils vendaient des t-shirts à 3 euros.
Oui.
Parce qu'en fait, je ne me suis pas rendu compte concrètement au lavage d'une différence franche de qualité entre des vêtements de marque haut de gamme et des t-shirts à 3 euros. Surtout qu'au bout d'un an, ils ne les mettent plus.
C'est ça, c'est que vous êtes aussi porté par les jeunes qui veulent se glisser dans une mode qui n'est
voilà.
pas forcément dure.
Ouais, et voilà, j'ai mon fils aîné qui a 11 ans, qui me réclame des marques comme Nike, par exemple, ouais. où je sais, j'avais entendu dire au niveau des conditions de production, voilà, c'était pas toujours clair. Donc, et je suis partagée. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais partagée entre la demande de mes enfants, mais même pour moi, enfin, la mode, c'est des achats plaisir. Oui. J'ai moi-même envie de me faire plaisir, de changer régulièrement de vêtements. Et du coup, je ne peux pas investir très cher tout le temps.
Mais je comprends. Vous pouvez échanger
et
avec Naïla sur le sujet, Carole.
Oui.
Adressez-vous l'une à l'autre. Hein. Oui.
Ouais, ce que je voulais dire, c'est que mon problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop où m'adresser.
Oui.
J'aimerais trouver des vêtements avec un prix abordable et produits en France, avec des qualités voilà, plus satisfaisantes. J'ai regardé sur Internet. Mais voilà,
pour revenir à la question du label, hein, justement, dont parlait François, qui n'existe pas.
Voilà.
Naïla Ajaltouni peut vous répondre, Carole, peut-être, ou en tout cas réagir à votre témoignage.
Oui, bonjour. Et je crois qu'on a dans votre témoignage finalement un peu le résumé des difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui dans l'industrie de l'habillement en tant que consommateur et effectivement avec ce que vient de dire l'invité précédent. D'une manière globale, le modèle économique aujourd'hui des entreprises de l'industrie de l'habillement, du textile, il est fondé sur une minimisation des coûts de production, au premier rang desquels les salaires. Donc on va se fournir dans des pays à bas coût où les droits sociaux sont bafoués, il y a une répression syndicale, etc. Et une production en quantité pour les enseignes de fast fashion associées à une piètre qualité. Donc malheureusement, on a une extrême majorité de nos vêtements qui est fabriquée dans ces conditions. Il y a en effet une difficulté qui est qu'on n'a pas effectivement de label de qualité sociale, je suis absolument d'accord. Et malheureusement, ce que l'on a réussi aujourd'hui à offrir comme signe de qualité sociale, c'est-à-dire pas de qualité technique aux consommateurs, c'est ce qui est relatif à des circuits extrêmement courts, c'est-à-dire soit de la matière première, soit des circuits courts. On arrive à labelliser du coton, de la matière première, bio ou équitable, de l'alimentaire, on n'arrive pas à labelliser l'ensemble du vêtement.
Donc
pourquoi?
Vous n'avez pas réponse concrète à apporter à Carole, qui est une citoyenne vraiment responsable, qui veut faire bien, mais en même temps qui est obligée d'écouter un peu ses enfants et la mode qui évolue.
En fait, c'est pour dire que effectivement, je ne mets pas sur le même niveau la responsabilité des consommateurs,
oui,
qui est certaine, et celle des grandes marques qui ont construit un modèle économique qui consiste à être le plus rentable pour elles et à maximiser leurs profits.
Oui.
C'est pour ça qu'on a deux leviers aujourd'hui. La conscience citoyenne, alors on va sûrement l'avenir aux alternatives de consommation
oui,
qui existent.
On
est déjà en train de les... Voilà, exactement. Donc, je vais peut-être pas empiéter dessus, mais il y a des moyens de consommer autrement. Et lorsqu'on est limité dans nos actes de consommation, il y a l'obligation pour la puissance publique de venir, d'obliger les entreprises à la transparence avec des normes, avec des règles, avec des lois, avec de meilleures pratiques. Et il y a eu une avancée considérable il y a un an et demi avec l'adoption en France d'une loi pionnière qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance qui concerne toutes les multinationales françaises qui, pour la première fois dans le monde, les contraint à publier un plan dans lequel elles disent les impacts sociaux et environnementaux de leur activité et comment elles vont les prévenir. Donc on a ces deux leviers, mais lorsque le consommateur est démuni, c'est à la puissance publique de réguler l'activité économique des multinationales.
Alors, merci Naïla. Chère Carole, je vous remercie de votre témoignage. Restez à l'écoute parce que juste après une petite pause avec François Carli et Naïla Jaltouni, on va parler justement des manières de consommer autrement, en tout cas du marché, notamment du marché de seconde main qui se développe beaucoup pour les jeunes. Vous pourrez peut-être en parler à vos enfants. Et pour Sandra et sa marque, c'est la marque Pirouette. Pirouette que vous pouvez trouver sur internet, j'imagine, voilà, qui nous appelle de Nanterre, artisanat français, vêtements pour enfants et accessoires d'artisanat. A tout de suite sur Europe 1, encore quelques minutes ensemble pour parler du rapport aux vêtements et des soldes d'hiver.
Et on retrouve Wendy Bouchard et ses invités, François Carlier, directeur général de CLCV, l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers, et Naïla Ajaltouni, qui est économiste et coordonnatrice du collectif Éthique sur l'étiquette. Et pour relancer le débat, cette info, on achète environ 60% de plus de vêtements qu'il y a 15 ans. Mais ils durent deux fois moins longtemps, selon l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie.
Voilà, alors pour sortir progressivement de cette fast fashion qui nous entoure depuis une vingtaine d'années maintenant, comment consommer autrement? Vous allez nous le dire, chers amis. Alors qu'Élodie réagit sur le hashtag Europe 1, hashtag le tour de la question. Quand je vous entends, cela me donne envie encore plus de tricoter mes propres vêtements, un peu plus cher, soit, mais de meilleure qualité et avec le plaisir décuplé du faire soi-même. C'est une tendance peut-être marginale, mais une jolie tendance. Naïla Jaltouni.
Oui, c'est une vraie tendance. Il faut aussi un savoir-faire quand même pour tricoter des vêtements. Et on voit qu'il y a une tendance effectivement, donc, d'une part, à de nouveaux créateurs qui fondent un modèle économique sur le respect d'une éthique sociale, environnementale, et pour moi, c'est la solution. Et puis, de renouveler des pratiques aussi, revenir à des choses peut-être aussi de bon sens.
Oui. Comment rendre plus éthique cet univers de la mode et du textile, François Carlier? Il y a ce marché de la seconde main qui se développe beaucoup dans cet univers.
Oui, déjà, on peut dire que les ateliers couture qu'il y a localement à la CLCV connaissent un regain d'intérêt depuis quelques années, c'est vrai. Mm-hmm. Et alors, le marché de la seconde main, effectivement, parce que finalement, la meilleure solution, plus encore que le recyclage pur, c'est le réemploi, c'est une seconde vie des produits. Et là, logiquement, il devrait s'installer un marché de l'occasion comme... ça existe sur les voitures, comme ça commence à exister aussi pour les téléphones portables. Et c'est vrai que ce marché doit s'organiser. Les outils numériques, normalement, vont servir d'accélérateur. Bon, là, c'est aux acteurs privés, je dirais, d'entrer sur le marché.
C'est une multiplication des friperies, quoi, pour bien dire.
Oui, c'est ça. Et puis, effectivement, de places de marché sur lesquelles on va pouvoir revendre ces biens. La seule chose que les consommateurs doivent avoir en tête, quand même, c'est qu'effectivement, sur le marché de l'occasion, ce n'est pas comme un marché neuf. Donc il y a toujours un peu d'incertitude, il y a moins de garanties, il faut faire avec. Je dirais, hein, c'est quand même la règle du jeu d'un marché de l'occasion, mais c'est vrai que c'est une des grandes solutions quand même au gaspillage dans ce secteur.
Et vous voyez ce secteur-là se développer, de la seconde main, avec un regard des jeunes très intéressés par ce marché-là, justement, Naïla?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs organismes qui documentent ce regain d'intérêt pour ce qu'on appellerait peut-être de manière un peu plus attrayante le vintage, en fait, la seconde main,
oui.
Notamment parce que cette accélération du rythme des collections permet aussi un renouvellement constant. On n'est plus dans les friperies à vêtements troués où il fallait chercher pendant des heures des vêtements qui ne ressemblaient pas à grand-chose. Il y a un vrai marché de la seconde main qui est plutôt lié au vintage, avec des coupes, des formes, des vêtements très bonne qualité et qui permet aussi de se distinguer. Je pense que sur le credo de le non-conformisme, les jeunes aussi sont un peu plus créatifs que ce que l'on pense. Mais ce qui est clair, c'est que il faut le gros problème aujourd'hui, c'est cette surproduction, cette surconsommation qui est désastreuse. Et donc, il vaut mieux cesser de l'achat neuf, cheap, à bas coût, de mauvaise qualité, et plutôt aller dénicher, créer, d'autant que ça devient de plus en plus facile de favoriser, oui, ce marché de la seconde main.
Mais on les trouve où, ces vêtements? vêtements de seconde main, les vêtements
alors,
vintage.
Alors, vous avez les relais, les Emmaüs, et vous avez différentes gammes aujourd'hui de boutiques qui sont créées, des boutiques solidaires. Et vous avez
boutiques
beaucoup,
en dur, et puis boutiques en ligne aussi.
Et puis beaucoup de boutiques en ligne. Vous en avez évoqué
le vestiaire collectif,
de Troyes, voilà, Vinted, le Troc, les Troc aussi un peu plus, enfin les échanges un peu plus locaux entre personnes. Et puis bien sûr les marchés, les vide-greniers. Après, vous avez d'autres initiatives qui repensent aussi cette question de d'une mode plus responsable, plus raisonnée des créateurs. Alors là, on est effectivement sur des prix, des segments de marché beaucoup plus élevés. Mais quand on a le choix parfois entre une basket à 120 euros et une basket responsable, ça existe. De la même manière pour des vêtements, des belles coupes. Il y a le mouvement Fashion Revolution qui s'est beaucoup mobilisé. Donc il y a de plus en plus d'alternatives.
Merci. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site du collectif Éthique sur l'étiquette. Vous avez un site internet, hein, j'imagine. Naïla Jaltouni, vous en êtes la coordinatrice. François Carlier, délégué général de CLCV. Merci de nous avoir éclairé aussi de vos compétences sur ce sujet-là. Merci infiniment. Solde d'hiver, voilà, c'est fait. Après la pause, on va s'intéresser à la conquête spatiale des Chinois. Comment la Chine s'inscrit de plus en plus dans la stratégie mondiale sur le sujet. Nous avons notre monsieur espace, Alain Sirou, qui arrive en studio.
Et dans un instant, la météo.
Merci.